Pour le grand public, la psychanalyse, c'est aussi bien Mémy Grégoire que Françoise Dolto, leurs interventions et celles d'autres spécialistes à la radio ou à la télévision. Et puis c'est aussi dans les magazines des articles qui font état de différends entre des écoles, des lacaniens, des freudiens, des jungiens, etc. Alors, par-delà les images que les gens en ont, comment vous, qui êtes psychanalyste, pratiquant également la psychiatrie d'enfants et d'adultes, comment vous définiriez-vous en 84 cet immense continent qu'est la psychanalyse?
Ce n'est pas commode de donner une formule brève pour définir la psychanalyse en 1984. Les découvertes freudiennes se sont développées d'une manière régulière et contradictoire depuis la fin du siècle dernier. Et elles ont eu une extension que Freud lui-même avait pressentie mais n'espérait pas. Il est difficile de parler de psychanalyse hors de l'expérience psychanalytique. Parce que l'objet même de la psychanalyse, c'est le psychisme inconscient. C'est-à-dire ce qui, par définition, échappe à l'individu et ne peut être connu que par un long et patient travail. Alors, il est certain que la psychanalyse a produit des effets tout à fait considérables dans différents domaines. J'en citerai deux qui me paraissent les plus importants à première vue. C'est d'une part les conceptions de la psychopathologie, et d'autre part l'attitude des adultes et des éducateurs en général devant les enfants. Il est indiscutable que la psychanalyse a eu des effets tout à fait étonnants sur la façon de concevoir l'éducation. Ce qui est sûr aussi, c'est que parler de l'inconscient, parler de cette activité mystérieuse du psychisme qui échappe à la connaissance du sujet, ce n'est pas parler de choses simples et c'est soulever des questions qui intéressent tout être humain. Ce sont des questions qui ont indiscutablement un retentissement philosophique. Et si l'on devait faire l'histoire de l'impact de la psychanalyse dans la société, on pourrait suivre les débats de la psychanalyse et de la philosophie.
Alors, à ses débuts, la psychanalyse, c'est Vienne, c'est le milieu intellectuel juif d'avant la Première Guerre mondiale, c'est tout un contexte scientifique aussi. Alors, comment est-ce que vous définiriez ce contexte?
Oui, ce contexte scientifique me paraît très très important. C'est la fin du 19e siècle, c'est un moment où on fait les découvertes les plus étonnantes sur le fonctionnement cérébral, sur la pathologie du cerveau. Et il ne faut pas oublier que c'est par l'étude de la physiologie nerveuse que Freud a abordé l'étude du fonctionnement psychique. C'est un moment étonnant où on découvre justement que le psychisme, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas une entité philosophique, c'est quelque chose qui est ancré dans le corps. Et l'unité entre le corps et le fonctionnement mental, c'est la grande découverte de beaucoup de chercheurs de la fin du XIXe siècle, et Freud s'inscrit tout à fait dans ce mouvement. C'est important de dire, par exemple, qu'une grande partie de l'activité psychique n'est pas définie par la conscience. Et c'est important aussi de découvrir qu'il y a un rapport entre les théories qu'on se fait du fonctionnement du système nerveux, c'est-à-dire de la physiologie nerveuse, avec le fonctionnement psychique. De ce point de vue, l'œuvre de Freud est tout à fait étonnante parce qu'elle part de l'étude de l'arc réflexe. Et les premières tentatives de Freud pour faire une psychologie scientifique, c'est un ouvrage qu'il n'a pas publié, mais qui a joué un rôle très très important dans la suite de ses découvertes, c'est un essai de psychologie scientifique.
Alors, il y a naturellement tout cet aspect scientifique que vous venez de développer, mais il y a aussi tout un contexte politico-social en ce début de XXe siècle, et notamment un lien peut-être entre le traumatisme de la guerre et puis malgré tout la présence de la psychanalyse dans des milieux qui sont des milieux démocratiques.
Ça, vous allez trop vite. Vous allez trop vite, parce que dans un premier temps, il est indiscutable que c'est cette recherche scientifique qui a un sens politique très profond sous la monarchie austro-hongroise et dans l'Europe d'avant la guerre de 14, qui marque d'abord le début de la psychanalyse. Et puis, il y a eu ensuite quelque chose de très important qui s'est tout de suite inscrit, je dirais, dans la pensée de Freud et dans la pensée des premiers psychanalystes, c'est la recherche de la vérité. La psychanalyse, c'est une quête de ce qui est authentique chez l'être humain, en essayant de démonter ce qui est faux semblant, ce qui est construction diverse, destinée justement à masquer la vérité. Pour moi, le début de la psychanalyse, peut-être est-ce un rapproché un petit peu facile, c'est l'affaire Dreyfus. C'est le moment où, effectivement, pour des raisons idéologiques, on peut monter une affaire qui a eu un retentissement comme l'affaire Dreyfus. Et la recherche de Freud, c'est une recherche de vérité chez l'être humain. C'est de savoir ce qui, derrière des formations apparemment logiques et cohérentes, se cache. Et c'est ça qui, finalement, est le fil conducteur de la psychanalyse depuis le début, jusqu'à la période contemporaine.
Vous dites l'être humain, mais au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas dire plutôt l'individu? Je veux dire par là, est-ce que la psychanalyse, ça n'est pas une chose qui ne peut se développer que lorsqu'on a affaire à des individualités reconnues comme telles, c'est-à-dire à des gens dont on admet qu'ils ont un jardin secret, ce qu'on n'admet pas du tout partout dans le monde.
Et donc, non seulement il faut admettre qu'ils ont un jardin secret, comme vous dites, mais il faut admettre aussi qu'ils ont une liberté de choix. Le début de la psychanalyse, et c'est probablement ce qui est le plus important dans tout le développement de la psychanalyse, c'est le rôle de la sexualité infantile dans le développement psychique et dans toutes les difficultés du psychisme de l'adulte. Alors, ce qui est important, c'est qu'au moment où Freud commence ses recherches, il est tout à fait scandaleux et interdit d'admettre que les enfants ne sont pas des angelots tout à fait dépourvus d'intérêt pour ce qui est sexuel. C'est ce qui fait que d'emblée, la recherche de Freud, dès la publication de l'interprétation des rêves en 1899, fait scandale. Puisque ce qui est contenu dans l'interprétation des rêves, c'est que les rêves ont un sens, que ce sens, c'est la réalisation d'un désir infantile, et que ce désir infantile se rapporte à la sexualité infantile. Et cette quête de vérité qui va se développer sans cesse, et qui va provoquer du reste des réactions assez vives chez les uns et chez les autres, et très rapidement des dissidences, car beaucoup vont accuser Freud d'être trop axé sur ses problèmes sexuels. Alors, dans un premier temps, les premières dissidences du mouvement psychanalytique, qu'il s'agisse de Jung ou qu'il s'agisse d'Adler, sont des dissidences portant sur ce point, sur ce qu'est la libido, sur l'importance de la libido pour les uns, sur ce qu'est la libido pour les autres.
La libido,
j'ai employé ce mot justement, c'est quelque chose qui est une tendance de l'appareil psychique à rechercher le commerce avec autrui, y compris le commerce érotique, et c'est quelque chose qui est le mouvement constant à la fois de la sexualité infantile, de la sexualité adulte, mais aussi de toute une série de désirs, qu'il s'agisse de toutes les formes d'amour ou qu'il s'agisse de la... En fait, dans la psychanalyse, dans la pratique psychanalytique, ce sur quoi on bute toujours, et ce qui est l'objet d'élaboration, c'est très précisément les difficultés d'intégration de la sexualité chez l'être humain à tous les âges de la vie.
Au fond, on a l'impression que la psychanalyse, dès ses débuts, est quelque chose de révolutionnaire et qui fondamentalement dérange et ne cesse de déranger.
On dérange complètement puisque nous sommes en plein... en plein 19e siècle ou au début du 20e siècle, et qu'il n'est pas convenable de parler de choses pareilles, et en particulier dans l'éducation, il n'est pas question de parler de sexe aux enfants.
Quel rapport est-ce que vous voyez entre ces affirmations de la psychanalyse et le fait qu'elle se développe dans un milieu qui est monothéiste et juif?
Juif persécuté. Car il ne faut pas oublier que sous la monarchie austro-hongroise, les juifs étaient tolérés à Vienne, mais il n'était pas bon d'être juif. Et Freud a eu des souvenirs d'enfance de son père humilié parce que juif. L'antisémitisme viennois était un bon ferment pour la psychanalyse.
Mais est-ce que le monothéisme est également un bon ferment, ou par exemple la notion de culpabilité liée au monothéisme chrétien?
Probablement, oui, c'est sûr. Mais actuellement, il y a deux tendances historiques, si vous voulez. Il y a celle que vous décrivez, dans laquelle on voit dans la psychanalyse la suite d'une pensée religieuse. Moi, je vois plus dans le développement de la psychanalyse un des effets des contradictions de cette société qui va mourir en 14-18, où il y a à la fois, je dirais, un très grand respect de l'être humain des religions judéo-chrétiennes, et en même temps de grandes agressions de l'être humain au nom de ces mêmes idéologies. Et je crois que c'est très important. C'est pour cette raison que je vous citais tout à l'affaire Dreyfus comme contemporain de l'œuvre de Freud, parce qu'effectivement c'est dans ces contradictions-là que la psychanalyse s'est développée. Et puis il y a eu un deuxième développement tout à fait extraordinaire qui est une conséquence de la guerre de 14-18. Si l'on pense au développement de la psychanalyse dans les pays de langue française, vous savez que les pays de langue française ont été assez hostiles au développement de la psychanalyse jusqu'en 14. En fait, la France était hostile à tout ce qui était pensée allemande, en ne distinguant pas très bien les différents mouvements contradictoires de la civilisation allemande. Puis il y a eu la guerre de 14-18, il y a eu le mouvement Dada, il y a eu le surréalisme. Et il est indiscutable que ce qui a entraîné dans les pays de langue française l'intérêt, non pas des médecins, mais de tous ceux qui pensaient, de tous ceux qui réfléchissaient, de ceux qui voulaient créer pour la psychanalyse, c'est le surréalisme. Et dans un deuxième temps, il y a eu tout un mouvement idéologique qu'on pourrait définir comme un mouvement anti-victorien. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est aperçu qu'on élevait depuis le début du XIXe siècle les enfants dans un monde d'hypocrisie, d'interdits, de censure, ce qui n'empêchait pas du tout les enfants d'ailleurs d'avoir leur vie sexuelle tout à fait secrète, et simplement ils se confessaient ensuite. Et il y avait toute une série d'hypocrisies qui jouaient beaucoup, et il y avait aussi toute une série d'hypocrisies dans la vie sociale des gens, dans leur vie conjugale. dans la bonne bourgeoisie, il était tout à fait normal et habituel de se tromper, de faire des choses de ce genre, mais le mariage était sacré. Enfin, il y avait toute une série de conventions, et ces conventions ont commencé à être balayées dans la mesure même où elles ont conduit finalement à cet énorme désastre de la guerre de 14-18. Cet énorme désastre où des millions de gens sont morts sans que finalement, après coup, on puisse... enfin, on en comprend très bien le déterminisme historique, mais rien ne peut justifier un tel carnage. Je veux dire que la Seconde Guerre mondiale est venue montrer qu'on pouvait faire mieux, et je ne sais pas ce que nous attend, ce que nous promettent les années qui vont venir, mais ça a créé quand même une sorte d'inquiétude générale, de remise en cause de toute une série de positions confortables acquises à la bonne morale bourgeoise, et je crois que la psychanalyse s'est quand même étonnamment développée là-dedans.
Pourquoi, au fond, est-ce que la psychanalyse est un phénomène typiquement occidental, à votre sens ? Pour quelles raisons fondamentales ?
Je crois que je viens de vous expliquer ces raisons, parce que ça s'inscrit dans le développement, effectivement, de la pensée occidentale, des contradictions de la pensée occidentale. Et c'est d'ailleurs également pour ces raisons que la psychanalyse, qui est une discipline rigoureuse, qui est une pratique difficile, dont l'application à certains terrains pose certains problèmes, a toujours été un objet de controverse beaucoup plus large que ce que l'on aurait pu croire d'une simple doctrine médicale. Mais un autre problème dont nous n'avons pas parlé et qui me paraît assez important, c'est l'influence de la psychanalyse sur la psychiatrie. L'influence de la psychanalyse sur la psychiatrie, ça a été tout d'un coup de montrer que les aliénés, les malades mentaux, les gens qu'on parquait dans des asiles, étaient des êtres humains comme les autres, et que les processus qui paraissaient les distinguer d'une manière tout à fait extraordinaire de tout un chacun, étaient des processus que l'on retrouvait chez tout être humain. Et je crois que ceci est une transformation extrêmement importante, et j'aimerais bien qu'on en reparle plus à fond.
Est-ce que, comme les travaux de Piaget, par exemple, la psychanalyse a eu des conséquences sur l'éducation des enfants ?
Sûrement. Sûrement, et d'une manière d'ailleurs assez imprévisible. Au début, Freud pensait avoir trouvé des principes assez importants pour changer l'éducation des enfants. En particulier, on sortait de l'époque victorienne où toute allusion au sexe était tout à fait interdit devant les enfants, on faisait des grands mystères sur la naissance, et la psychanalyse a été le point de départ d'un mouvement tout à fait inverse, et de cette espèce de libération étonnante dans l'éducation des enfants. En même temps, la psychanalyse a provoqué des mouvements d'opinion, et en particulier sur les problèmes d'autorité et de sanction. C'est vrai qu'on s'est aperçu que certains enfants pouvaient être traumatisés par des remarques très agressives des parents. Par exemple, il était assez fréquent au début de ce siècle de menacer un enfant surpris en train de se masturber, de lui couper ses organes génitaux. Ça faisait partie de la bonne éducation commune. Alors ce sont des choses qui, effectivement, actuellement ne se font plus. Il y a eu des contresens faits en matière d'éducation. Par exemple, on a pensé que ce qui crée des complexes, c'était de donner des ordres aux enfants et surtout de leur donner des interdictions. Il y a eu un moment très marqué aux États-Unis dans les années 50, par exemple, mais qui s'est répandu absolument dans tout le monde occidental, où on n'interdisait rien aux enfants et on essayait surtout de ne de les mettre dans aucune situation de frustration. Alors ça a été très étonnant comme résultat, parce que le résultat était tout à fait paradoxal et inverse. On s'est aperçu d'abord que les enfants les plus angoissés étaient ceux qui étaient élevés comme ça. de loin de calmer l'angoisse infantile, en laissant les enfants faire n'importe quoi, on les rendait tout à fait anxieux et avec des surmoi tout à fait écrasants. Le surmoi étant la partie de l'appareil psychique qui représente les parents interdicteurs. Alors si les parents n'interdisent pas, eh bien l'enfant s'interdit lui-même d'une manière beaucoup plus violente de satisfaire ses désirs. Alors tout ceci est a créé ensuite un mouvement de réflexion et on s'est aperçu qu'effectivement les choses étaient plus compliquées que cela et qu'il ne suffisait pas simplement de tout permettre aux enfants pour en faire des adultes ni même des enfants heureux d'ailleurs.
Alors pour le petit enfant, qu'est-ce que la psychanalyse dit en matière de sexualité?
Beaucoup de choses. Moi, je crois qu'actuellement, tout le monde est d'accord pour penser qu'il ne faut pas mentir aux enfants, qu'il faut leur dire des choses vraies. Le secret dans l'éducation est quelque chose qui, généralement, est tout à fait néfaste. Et très souvent, on voit des enfants qui vont très mal et qui deviennent des adultes très malades, parce qu'il y a eu des secrets dans la famille dont on n'a pas voulu parler aux enfants et qui ont pesé d'une manière extrêmement lourde sur eux. Je pense par exemple qu'il y a des secrets de filiation que l'on essaye de cacher aux enfants. Généralement ce sont des secrets de polichinelle parce que tout le monde est au courant et l'enfant sait une chose, c'est qu'il y a quelque chose de terrible qu'on lui cache. Alors, donc, un des grands acquis de la psychanalyse, c'est de dire qu'il faut dire des choses aux enfants, et leur dire la vérité dans la mesure où ils peuvent assez bien la supporter. Ce qui traumatise les enfants, c'est ce qui angoisse les parents. Par exemple, quand on parle d'éducation asexuelle, il est clair qu'il y a des parents qui ne sont pas du tout à l'aise pour donner des explications aux enfants. Et quand ils donnent des explications en se forçant, c'est leur propre malaise qu'ils transmettent aux enfants. Une des choses intéressantes, d'ailleurs, c'est que les enfants se font tout le temps des théories. C'est là où je pense qu'il y a une certaine correspondance entre l'œuvre de Piaget et l'œuvre de Freud. Les enfants ne supportent pas qu'il y ait des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors, ils se font des théories sur ce qu'ils ne comprennent pas ou sur ce qu'ils ne voient pas. Et les théories sexuelles infantiles existent et sont très intéressantes. Il faut en tenir compte. Et il faut savoir que même si vous donnez des explications sexuelles aux enfants, les théories sexuelles infantiles ne disparaissent pas pour autant et qu'il y a tout un travail que l'enfant doit faire. Et souvent, il a l'air d'avoir oublié ce qu'on lui a dit.
Par ailleurs, de tout dire ou de dire toute la vérité en matière de sexualité, est-ce que ça ne banalise pas aussi terriblement? Est-ce qu'on a encore une personne privée, une intimité?
Tout dire, c'est une expression qui peut signifier les choses les plus diverses. Oui. Ça peut aussi bien représenter un exhibitionnisme tout à fait malsain de la part des parents, ou simplement une réponse honnête. D'ailleurs, les enfants ne sont pas tout le temps en train de chercher des réponses à leurs questions sexuelles. Il faut donc parler aux enfants quand c'est nécessaire, ni trop ni trop peu. Il y a deux points sur lesquels j'aimerais insister sur l'impact de la psychanalyse sur l'éducation. D'abord, un premier point sur lequel actuellement tout le monde est d'accord. C'est le fait que l'enfant a besoin d'avoir en face de lui des personnes réelles et non pas des éducateurs professionnels ou des personnes très artificielles. Donc il est important que père et mère soient présents comme ils sont, avec leurs propres réactions, avec ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, même si ça paraît pas très cohérent et peut-être arbitraire. Il est important que l'enfant ait devant lui quelqu'un qui a un contour précis. Les parents ne sont pas du tout dans l'obligation d'avoir le bon rôle à tout coup. Ça, c'est une des premières choses. Ça entraîne d'ailleurs quelque chose d'important aussi, c'est le fait que chacun doit tenir sa place. Il y a des parents trop compréhensifs. Et être trop compréhensif, c'est quand même une façon de voler à l'enfant sa propre place. Il y a des parents qui s'identifient tellement à leur enfant ou à leur adolescent qu'ils sont toujours en train d'aller au-devant de leurs désirs. Et je pense à une mère qui, devant moi, disait à son fils, « Moi, je serais tout à fait d'accord pour que tu ne sois pas d'accord avec moi. » Elle pensait être très libérale. En réalité, elle était très méchante. Parce que c'est une façon d'interdire à son fils de prendre position contre elle. C'est une façon de dire, quelle que soit la position que tu vas prendre, tu ne me surprendras pas, je serai d'accord avec toi. Alors, c'est une très mauvaise position. Moi, je crois qu'il vaut beaucoup mieux dire, ben, « Je suis comme je suis, et ça, je ne veux pas que tu le fasses. »
Est-ce que les théories psychanalytiques en matière de sexualité infantile, notamment, n'ont pas beaucoup changé ?
Sur le fond du problème, pas tellement. Si vous voulez, la théorie psychanalytique sur ce point est restée tout à fait constante. C'est le fait que l'enfant jeune, le bébé, a une activité sexuelle, c'est-à-dire un érotisme de certaines parties de son corps, et qu'il y a une continuité entre cet érotisme des premières semaines, des premiers mois, des premières années, et ce qui se passe à partir de l'adolescence à l'âge adulte. C'est cette continuité qui est la base même de la théorie psychanalytique. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de modifications, beaucoup de transformations sur cette façon de concevoir le début de la vie, bien entendu. Le second point, c'est la découverte de l'importance de ce qui se passe entre un bébé et son environnement dès la naissance. C'est assez extraordinaire parce que pendant très longtemps, on pensait que dans la première année, un bébé n'était qu'un tube digestif et que du moment qu'on donnait des soins matériels, c'était tout à fait suffisant. Et c'est vraiment à la suite des découvertes de la psychanalyse qu'on a commencé à regarder de près ce qui se passait et à s'apercevoir que dans les interactions entre un bébé et son environnement et sa mère, il y avait une complexité et une richesse tout à fait impressionnante et que souvent le destin des individus pouvait être très déterminé par la qualité des échanges entre une mère et un bébé. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est une retombée secondaire de la psychanalyse, mais qu'il faut absolument mettre là, dans ce chapitre des rapports de la psychanalyse et de l'éducation.
Au fond, l'analyste, c'est un mentor, c'est un gourou, c'est un accoucheur.
C'est ni un mentor, ni un gourou, ni un accoucheur. C'est quelqu'un qui écoute et qui associe en écoutant. Il n'associe pas de la même façon que le patient. Le début de l'analyse, vous savez, ça a été une découverte très simple. Jusqu'à Breuer et Freud, les médecins étaient très contents que les malades femmes deviennent amoureuses d'eux. Ils pensaient que c'était pour leur charme personnel. Et Freud a été le premier à se dire que c'était pas du tout pour son charme que les patientes devenaient amoureuses ou tenaient des propos de ce type, mais parce qu'ils représentaient quelque chose d'autre. Alors, l'analyste, c'est quelqu'un qui effectivement ne se laisse pas séduire, ne croit pas que c'est pour ses qualités personnelles que le patient a envie de lui plaire ou de lui ressembler, mais que c'est pour des raisons qui sont beaucoup plus importantes que cela, et que c'est effectivement parce qu'il y a le transfert, c'est-à-dire que l'analyste joue le rôle de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre, qui n'est pas forcément le père ou la mère du patient, mais c'est une espèce d'image de père ou de mère que tout être humain s'est fabriqué. Et souvent il reproche d'ailleurs à son propre père ou à sa propre mère de ne pas être conforme à cette image. L'analyste écoute et se souvient. Et c'est une des particularités de l'analyse, c'est que souvent un patient parle pendant une séance, raconte un rêve, par exemple, et puis on ne voit pas très clairement comment s'organise son discours. Ce n'est que souvent deux ou trois séances plus tard, qu'il explique qu'il y a un événement qui s'est produit auparavant, dont il n'a pas parlé, et, ou bien qu'il a eu certaines pensées qu'il n'a pas pu dire. Et tout d'un coup, justement, le fait de parler de cet événement, ou d'énoncer ses pensées, donne un sens à ce qui s'est passé dans les séances précédentes, et il n'était pas directement compréhensible. Le rôle de l'analyste, c'est de montrer au patient qu'effectivement, le discours qu'il tient, qui lui paraît un peu décousu, qui lui paraît un petit peu incohérent, le rêve qu'il raconte, qui paraît incompréhensible, peuvent trouver un sens cohérent qui peut être utilisable par le patient lui-même.
Alors, d'une fois à l'autre, ou de fois en fois, ou même d'année en année, comment est-ce que vous faites, vous, pour vous souvenir? Vous prenez des notes?
Non, on ne prend pas de notes, on n'enregistre rien. Le souvenir de l'analyste est organisé de la manière suivante. Si vous me demandez de vous parler de la dernière séance d'un de mes patients, il faudra que je réfléchisse un petit peu, et il est probable que je vous en ferai un récit très incomplet. Par contre, quand j'écoute un patient, tout d'un coup, j'associe ce qu'il est en train de me dire avec quelque chose qui me revient à la mémoire, précisément, de ce qu'il m'a dit la séance précédente, ou il y a 8 jours, ou 15 jours. Et c'est ça, la mémoire de l'analyste. C'est une mémoire qui n'a rien d'extraordinaire, mais c'est une mémoire qui travaille d'une manière différente de celle du patient. Alors, bien entendu, souvent les gens s'étonnent qu'un analyste ait besoin d'être analysé. Et je crois que c'est tout à fait essentiel, parce que s'il n'était pas analysé, et je dirais bien analysé, sa mémoire pourrait lui jouer des tours tout à fait particulier. Il pourrait, par exemple, oublier électivement un certain nombre de choses. J'ai connu des jeunes analystes qui oubliaient très rapidement tous les rêves que les patients leur racontaient, par exemple, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en souvenir, et pour des raisons personnelles. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut que l'analyste soit en analyse lui-même assez longtemps pour ne pas avoir de parasites qui viennent perturber les choses. Normalement, quand un patient parle, il provoque chez son analyste des réactions personnelles qui organisent ses souvenirs. Et l'interprétation que l'on donne à un patient, c'est effectivement, ça commence par être une sorte de, une façon de rassembler un certain nombre d'éléments et parts donnés par le patient, en montrant que cela peut avoir un sens différent de ce que le patient croit. Alors, il y a un sentiment assez agréable quand on est en train de faire soi-même une analyse, de découvrir qu'effectivement, il y a une cohérence dans ce qui nous paraissait incohérent. Et en même temps, c'est comme ça qu'on découvre qu'il y a toute une partie de la vie psychique qui reste cachée, mais qui agit sur la vie psychique consciente.
Vous avez fait allusion à la formation d'analyste. Alors, il faut être analysé. Est-ce qu'il faut être aussi médecin? Comment est-ce qu'on acquiert cette capacité? Qu'est-ce qui garantit, au fond, qu'on est un bon analyste ou un charlatan?
À vrai dire, il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. Il y a des sociétés de psychanalyse qui sont des associations privées, qui essayent de faire une formation et de choisir les membres qu'elles recrutent. Mais c'est tout à fait privé, il n'y a aucune garantie possible. En France, tout docteur en médecine peut pratiquer n'importe quel acte médical. En Suisse, il suffit d'être spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour avoir droit à faire de la psychanalyse. Donc il n'y a aucune garantie. C'est un des grands problèmes. C'est qu'effectivement, actuellement, il y a un très grand nombre de gens qui s'intitulent psychanalystes.
Est-ce qu'il faut être médecin à votre sens?
Non. Votre question, il faut la diviser en deux. Il y a le problème des conditions légales, et puis il y a de ce que nous pensons vraiment. Je crois que un certain nombre de médecins peuvent devenir de bons un psychanalyste. Je ne dis pas que je suis un bon psychanalyste, mais moi j'ai suivi une voie qui consistait à devenir médecin, psychiatre, et puis à me heurter des quantités de problèmes qui me paraissaient insolubles, et puis à essayer de les résoudre. Mais il y a d'excellents analystes qui ne sont pas médecins. Mais il faut, je crois, une expérience de la vie assez importante avant de commencer à être psychanalyste. L'expérience de la vie, ça peut aussi bien être une pratique philosophique, par exemple, ou même une activité artistique ou quelque chose de ce genre. Il y a aussi des psychologues qui peuvent devenir psychanalystes. Il est très clair qu'il n'y a rien qui prépare réellement à la psychanalyse. Mais l'expérience qu'on a fait avant de devenir psychanalyste est quand même quelque chose de très important. Ce qui fait que quand nous avons des jeunes qui viennent nous voir à 20 ans pour devenir psychanalyste, on leur dit, ben, revenez nous voir dans 10 ans, on verra ce que vous avez fait avant. Enfin, et je crois que il est nécessaire de faire ainsi.
Au fond, un médecin ne peut pas conduire un patient plus loin qu'il n'a lui-même été.
Ça, c'est pas évident. Moi, je pense qu'on peut toujours, que les autres peuvent toujours aller plus loin que soi-même. Parce que dans la, un vrai psychanalyste, pour moi, c'est quelqu'un qui, dans chaque analyse, découvre quelque chose. Et découvre même des choses nouvelles. On ne peut pas être psychanalyste si on pense à l'avance tout savoir sur l'inconscient, enfin, et avoir tout de suite des schémas tout faits. Naturellement, il faut tenir compte de tout le travail de nos prédécesseurs, de tout ce que les gens ont écrit, de tout ce que les gens ont dit. Mais une psychanalyse est une découverte permanente, et une découverte autant sur le patient que sur soi-même. Ce qui fait que je pense que certains de mes patients ont probablement été plus loin dans leur analyse que moi je ne l'avais été. Mais en même temps, il y a un travail d'auto-analyse qui est tout à fait permanent dans une cure analytique de la part du psychanalyste.
Qu'on soit intellectuel ou qu'on soit ouvrier, est-ce qu'il est possible de faire une psychanalyse ?
Comment ? Les conditions pour faire une psychanalyse, c'est pas tellement d'être intellectuel ou ouvrier, parce que je crois qu'il y a des intellectuels qui ne font jamais une analyse, et il y a des ouvriers qui font de merveilleuses analyses. Tout le problème, au départ, c'est la façon dont le langage du sujet est investi par lui-même. Dans une situation de tension, vous avez des sujets qui essaient de résoudre cette tension en parlant ou en réfléchissant avec des mots. Et puis vous avez des sujets qui font tout autrement. Par exemple, immédiatement, passent à l'acte, se mettent en colère, ou ont des revendications brutales et simples et qui s'arrêtent très court. Vous en avez même, et ça je crois que c'est important à dire, qui, dans une situation de tension psychologique, font brusquement des maladies somatiques graves. Alors, il est tout à fait clair que ce qui va être important pour nous, c'est d'essayer de prévoir la capacité des candidats à l'analyse qui sont capables d'élaborer avec leur langage leurs problèmes, d'associer et de s'intéresser à ce qu'ils disent. Alors, je crois que ceci ne dépend pas tellement du niveau d'instruction, mais je dirais d'une disposition psychologique assez essentielle.
Il faut aimer parler ou il faut aimer la langue ?
Il faut ni aimer parler ni aimer la langue, il faut se servir de sa langue maternelle convenablement.
Donc, même quelqu'un qui n'aime pas parler, qui est très introverti ou timide, peut entrer en analyse.
Et beaucoup de gens qui parlent pour parler sont de très mauvaises analyses, ou en tout cas des analyses très difficiles.
Alors, au bout de quelques années, comment est-ce qu'on considère que c'est par exemple la fin d'une analyse ? Qu'est-ce qui détermine la fin d'une analyse ?
Le problème de la fin de l'analyse, c'est un problème difficile. Parce que les critères dépendent, bien entendu, du sujet, dépendent de ce qu'il attendait d'une analyse, dépendent de ce qu'il a acquis. Généralement, on peut répondre d'une manière tout à fait simple en disant que c'est le moment où le psychanalyste et son patient décident d'un commun accord qu'ils ont assez travaillé et qu'ils peuvent s'arrêter. En fait, c'est plus compliqué que cela pour la raison suivante. C'est que tant qu'un être humain est en analyse et qu'il a la présence de quelqu'un qui l'écoute, il est capable de faire un certain travail d'élaboration et de compréhension et d'avoir le sentiment de réellement de dominer un certain nombre de ses contradictions internes. Et puis, à partir du moment où on dit, eh bien maintenant, je crois qu'on a fait un assez bon travail, on pourrait peut-être espacer les séances et puis s'arrêter, on s'aperçoit que le patient a du mal à continuer le même travail s'il est seul. Et il va y avoir tout un travail nécessaire pour lui permettre de faire ce travail tout seul, c'est-à-dire se passer vraiment de la présence de l'analyste. Alors c'est une des raisons pour lesquelles souvent les analyses sont longues. C'est que l'important, c'est pas seulement d'avoir acquis un certain niveau de fonctionnement mental convenable, mais d'être capable de le faire seul.
Au fond, l'analyse, vous donnez le petit doigt et c'est le bras qui est pris.
Vous, c'est le patient, c'est l'analyste.
Le patient.
C'est pas le bras qui est pris, c'est la totalité de la personne.
Et comment est-ce qu'on fait pour s'en défaire? Je veux dire, par là, qu'est-ce qui va mieux? Est-ce que c'est l'aptitude au travail? Est-ce que c'est l'aptitude aux relations humaines? Est-ce que c'est l'aptitude à la création, par exemple?
Ça peut être l'aptitude à la création. C'est la capacité d'aimer, qui a l'air d'un mot passe-partout, mais qui signifie beaucoup de choses. C'est la capacité aussi de supporter les frustrations, de supporter les échecs, ne pas être totalement désorganisé par justement un échec en amour ou dans la créativité. C'est la capacité de retomber sur ses pieds, d'avoir un certain humour, c'est toute une série de... C'est la capacité de lutter contre la dépression de manière efficace, de ne pas vivre uniquement en se demandant si on va bien, si on va mal, si on est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, mais de faire quelque chose d'un peu plus drôle.
Est-ce qu'il y a des analyses qui sont elles-mêmes des échecs?
Bien sûr, il n'y a pas de thérapeutique qui n'est pas d'échec, et je vous ai dit que c'était une aventure difficile.
Alors, qu'est-ce qui est un échec? Est-ce que c'est le patient? Est-ce que c'est l'analyste? Est-ce que c'est la relation entre les deux? Est-ce que c'est la méthode?
C'est la relation entre les deux, sûrement. C'est il est difficile de vous donner une réponse générale. Mais il faut bien que vous sachiez que ce n'est pas une technique qui s'apprend facilement. Bon. On peut parler de tant de tel pourcentage d'échecs dans une technique opératoire, les opérateurs étant égaux et faisant un travail tout à fait incomparable. Tel que je vous ai décrit tout à l'heure le processus analytique, vous voyez qu'il y a une très grande part qui dépend de l'art du psychanalyste, de sa bonne santé, des bonnes conditions dans lesquelles il travaille, et puis aussi du choix du patient. Il y a parfois des surprises qui peuvent être tout à fait désagréables.
Est-ce que la psychanalyse, c'est un système théorique ou bien est-ce que c'est une pratique avant tout?
C'est un système théorique qui est basé sur une pratique.
Alors, si c'est un système théorique...
Qui est basé sur une pratique.
Oui, mais si c'est un système théorique, néanmoins, il se veut comme tout système globalisateur, total, explicatif d'un ensemble. Est-ce qu'à ce titre-là, il n'est pas guetté, comme tout autre système, par une menace totalitariste?
C'est un danger, donc il faut être conscient.
Mais encore.
C'est-à-dire qu'il y a actuellement dans le monde des psychanalystes de différentes espèces, dirais-je. Il y a des psychanalystes qui croient savoir tout, qui ont un système qui leur permet de tout expliquer. Et ceci dans des courants de pensée assez divers. Eh bien, je crois que ceux-là sont frappés de stérilité. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la psychanalyse, comme toute discipline scientifique, est quelque chose qui doit être capable de se remettre en question à tous les coups. Et je pense, par exemple, que quand on a fait ce qu'on a cru devoir faire avec un patient, lui donnant telle interprétation ou telle autre, et que les choses ne se passent pas comme on espère, ça veut dire qu'effectivement, il faut se reposer des questions et essayer de comprendre ce qu'on n'a pas vu.
Comment est-ce qu'un analyste apprend à interpréter ?
Il apprend à interpréter, enfin il apprend à faire son métier de psychanalyste de manière suivante. Cela commence d'abord par une analyse personnelle. Bon. Alors bien sûr, l'analyse personnelle, ce qui se passe n'est qu'une petite partie de l'expérience possible, puisque c'est le cas particulier de ce candidat analyste avec cet analyste didacticien-là. Donc c'est quelque chose qui est à la fois très important pour le futur analyste, mais enfin ce n'est qu'une expérience partielle. Ensuite, il y a dans la plupart des pays du monde occidental des sociétés de psychanalyse qui organisent la formation des psychanalystes. Cette formation comporte d'abord énormément de lectures, puisque maintenant il y a une très grande littérature analytique, il y a des courants tout à fait contradictoires, il faut comprendre pourquoi ces contradictions, à quoi elles répondent. Et puis là, une fois que le candidat, vous voyez, j'allais dire le patient, mais c'est parce qu'effectivement il commence par être un patient comme les autres, a une culture analytique suffisante, et que sa psychanalyse personnelle est assez avancée, il prend des patients en analyse sous supervision. C'est-à-dire que chaque semaine, il vient raconter ce qui s'est passé à un analyste plus expérimenté, et ces deux analystes discutent ensemble de ce cas. Il y a toute une série de séminaires de discussions, et ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps et tous ne réussissent pas. Il y a des gens qui se sentent pas à l'aise dans ce métier. Enfin, ils considèrent simplement qu'ils ont fait une expérience intéressante, mais ils peuvent être psychiatres de mille autres façons.
Vous disiez également qu'on devient psychanalyste par goût. Si au fond je vous demandais, depuis 40 ans vous êtes psychanalyste, qu'est-ce que vous avez cherché pendant ces 40 ans ?
Eh bien, je crois qu'en vous disant tout à l'heure que la psychanalyse était une recherche de vérité, je parlais aussi de mon autobiographie. J'ai découvert la psychiatrie et la psychanalyse en même temps. Et j'ai découvert la psychiatrie et la psychanalyse en 1941 à Marseille. C'était un moment assez étonnant où il se passait deux choses. Il y avait à Marseille des quantités de gens qui étaient chassés du monde entier, enfin de l'Europe entière, je veux dire, et qui essayaient de partir aux États-Unis. Il y avait donc un milieu intellectuel tout à fait passionnant, et c'est là où j'ai rencontré les premiers psychanalystes que j'ai pu voir personnellement. Et puis il y avait autre chose. Il y avait la psychiatrie. Il y avait la psychiatrie, il y avait des malades qui étaient très maltraités et dont une grande partie sont morts de faim pendant l'occupation. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup traumatisé. Et la recherche de la vérité en psychiatrie m'est apparu tout d'un coup tout à fait semblable à la recherche d'une vérité politique. Qu'est-ce que c'était que ces êtres humains que j'ai appris à connaître, que j'ai appris à connaître bien sûr en médecin avec des catégories cliniques, mais que j'ai appris à connaître parce que j'ai vécu avec eux, et c'était des êtres humains comme tout le monde. Et on sentait très bien, quand on s'approchait de près, que nous pouvions vaciller et être de l'autre côté de la barrière. Alors, ma recherche a été une recherche d'une autre psychiatrie, et d'une autre psychiatrie où mon engagement personnel jouait un rôle. Alors, il s'agit ni de trop s'engager, ne pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir, il s'agit de trouver quelque chose de juste. Et c'est comme ça que je suis devenu psychanalyste.
Aujourd'hui, des termes comme refouler, sublimer, résistance, fixation sont devenus au fond monnaie courante. Et on a l'impression que les frustrés et les complexés de toutes sortes ont envahi le langage le plus commun, y compris celui du cinéma et de la bande dessinée. Alors, est-ce que vous avez l'impression que cette contamination du langage, c'est une manière de reconnaître en 1984 que la frontière entre la santé psychique et la santé et la maladie mentale est fragile?
Probablement. Votre question me provoque chez moi deux sentiments. D'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour Claire Bretéché. Et je trouve que, l'esprit ne doit pas perdre ses droits. Par contre, j'ai une certaine irritation contre la banalisation des termes psychanalytiques. Et cette banalisation, d'ailleurs, est assez dangereuse, parce que les gens ont le sentiment de savoir de quoi ils parlent, alors qu'en réalité, c'est une transformation des termes, et ça ne peut pas dire grand-chose. Il est clair que quand la psychanalyse a commencé à être connue du grand public, le problème de la sexualité et des difficultés sexuelles a impressionné le public, et qu'à ce moment-là, des termes comme refoulement ont changé de sens. Le refoulement, c'est un processus psychique normal qui existe absolument chez tout le monde et qui est tout à fait indispensable au fonctionnement mental. C'est le fait que un certain nombre de désirs, un certain nombre d'images, un certain nombre de souvenirs, un certain nombre de représentations ne sont pas compatibles avec d'autres, et que l'appareil psychique passe son temps à choisir entre les différents termes qui se présentent, et en particulier entre les termes des contradictions. Le refoulement le plus typique, c'est le refoulement de l'enfant jeune, qui, dans un premier temps, s'identifie assez facilement aux parents du même sexe, et dit, par exemple, le petit garçon dit « quand je serai grand, j'épouserai maman ». Son père est un peu embarrassé, parce que c'est cher comme son père, et ce père devient gênant. Alors, il trouve des solutions assez faciles. Par exemple, « quand je serai grand, papa sera petit ». Puis, au fur et à mesure de son développement, il s'aperçoit que ce n'est pas « papa sera petit », c'est « papa sera mort ». Et à partir de ce moment-là, il y a une contradiction qui est assez insupportable pour lui, parce qu'il a envie d'être comme son père, et être comme son père, ça veut dire prendre sa place, ça veut dire le supprimer, c'est-à-dire en même temps se supprimer lui-même. Là, il est obligé de faire un choix, il ne le fait pas consciemment, il ne le fait pas volontairement, et il y a un processus de refoulement. Le processus de refoulement, c'est d'une part que l'idée que quand il sera grand, il épousera maman, lui apparaît tout d'un coup une idée tout à fait de bébé sans intérêt, et il l'oublie. Et en même temps, tous les souhaits de rivalité agressive à l'égard du parent du même sexe sont refoulés aussi, c'est-à-dire qu'ils ne deviennent plus conscients. À partir de ce schéma un petit peu simpliste que je viens de vous faire, on peut comprendre que quand une idée désagréable risque de naître, quand un désir impossible à réaliser risque d'apparaître, il subit le même chemin. Et quand une expérience désagréable risque de donner un souvenir pénible, et bien ce souvenir n'est plus évocable. De ce point de vue-là, il y a un phénomène qui est très passionnant, c'est le fait que l'enfant oublie ce qui s'est passé dans les 4-5 premières années de sa vie. Alors qu'un enfant de 3 ans a une mémoire tout à fait étonnante, se souvient de tout, se souvient des personnes, se souvient des lieux, se souvient de ce qui a été dit, c'est une expérience que tout le monde fait. Et à partir de 4-5 ans, il y a ce qu'on appelle l'amnésie infantile, c'est-à-dire qu'un enfant de 6-7 ans ne reconnaîtra plus même des lieux qu'il a connus très très bien quelques années plus tôt. Et ce phénomène d'amnésie infantile n'est pas un simple phénomène physico-chimique, c'est un phénomène psychologique qui a un sens très précis. C'est-à-dire que toutes les pensées, tous les désirs, toutes les imaginations, tous les fantasmes sexuels, justement, se rattachant aux parents, sont tout à fait impossibles à évoquer quelques années plus tard. Ils sont donc refoulés. Mais on peut les connaître, on peut les connaître de plusieurs façons. C'est que d'abord, ils apparaissent transformés dans le rêve. Et ça surprend toujours beaucoup les adultes de faire des rêves qui sont par exemple des rêves facétieux. Et ça les choque beaucoup. D'ailleurs, souvent, des gens sont très honteux d'avoir fait des rêves facétieux. Parfois ça apparaît de manière aussi crue et aussi directe, parfois c'est transformé, symbolisé, mais on s'aperçoit que ce n'est pas effacé, que c'est quelque chose qui reste toujours présent dans l'appareil psychique, mais qui ne peut plus être évoqué directement dans la conscience. Et la grande découverte de la psychanalyse, c'est cela justement. Donc le refoulement, c'est quelque chose de normal. Quant à l'adjectif, c'est un refoulé. Alors là, c'est justement toute la transformation d'un terme pour désigner simplement quelqu'un qui serait ridicule par ses problèmes sexuels, par exemple.
Le docteur Knopp disait, lui, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Est-ce qu'un psychanalyste dirait que tout homme sain est un névrosé en puissance?
Un psychanalyste dirait que tout malade mental est un être sain en puissance.
Vous pouvez développer.
Si, alors je voudrais m'expliquer. C'est vrai que les notions de normalité et de maladie en matière de psychopathologie sont des notions extrêmement difficiles à manier. Et on s'aperçoit que généralement le sens commun a des idées très précises. Et sain, tout ce qui est conforme, et pathologique, tout ce qui est étrange, tout ce qui n'est pas compréhensible. En réalité, quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que nous avons tous, dans notre vie psychique, énormément de phénomènes qui sont très peu compréhensibles. Ce qui donne une nouvelle idée de la barrière, de la séparation entre santé et maladie. Par exemple, nous considérons que la vie psychique normale, c'est une série d'équilibres instables et de pertes d'équilibre. Mais ça se rattrape d'une certaine façon. Dans certaines circonstances, ça ne se rattrape pas de la même façon. Il y a dans la vie de tout un chacun des moments de crise, des moments de rupture. Il y en a de nombreux moments tout à fait connus où ce qui se passait avant ne peut pas être continué. Il y a vraiment une sorte de révolution qui se passe. Et à ce moment-là, il n'est jamais évident que la personne s'en tirera bien. Cela se voit aussi bien dans les premières semaines, les premiers mois de la vie, ça se voit aussi bien vers 4-5 ans, ça se voit à l'adolescence, ça se voit encore plus dans les différentes étapes de l'âge adulte, et en particulier à partir de la fin de la jeunesse, de la fin de la cinquantaine, le vieillissement. Ce sont des phénomènes de crise. Alors, la différence entre un être sain et un être malade n'est pas claire. Vous avez des personnes qui ont constitué des équilibres tout à fait fragiles, mais qui ont tenu jusqu'à 50 ans, et qui tout d'un coup ne peuvent plus continuer à tenir le coup et font une dépression grave, par exemple à la cinquantaine, parce que ce qui les aidait à tenir n'existe plus et à partir de ce moment, ils se révèlent malades.
Quand un psychiatre reconnaît un schizophrène, est-ce que de désigner la maladie induit une thérapeutique?
Une question très embarrassante que vous posez là. Bien sûr, quand on fait un diagnostic en psychiatrie comme dans n'importe quelle autre branche de la médecine, ça induit en tout cas une décision tactique. Mais cette décision tactique est une décision compliquée et difficile. Elle peut avoir d'ailleurs des sens très différents. Faire un diagnostic de schizophrénie, ça peut signifier, considérer que cet être humain n'est plus digne d'être dans le groupe des sujets normaux. Quand un médecin fait un diagnostic de schizophrénie, cela implique indiscutablement la mise en place d'un dispositif, d'une stratégie et d'une tactique. Mais ce n'est pas un diagnostic anodin. Et faire ce diagnostic peut avoir une influence tout à fait considérable sur le destin de l'individu. Puisque ça veut dire, à partir de maintenant, étant donné ce que je pense, cet être humain n'est plus un être humain normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attacher à ce qu'il dit la même valeur que qu'est-ce que disent les autres. La parole de la personne pour laquelle on fait un diagnostic de maladie mentale est une parole disqualifiée. Et ça peut avoir une signification très grave. Alors, c'est vous dire que là, nous sommes dans une très très grande difficulté, et je crois que ça différencie d'une manière tout à fait considérable la psychiatrie des autres branches de la médecine. Quand on fait un diagnostic très précoce de cancer, et qu'on dit au patient, eh bien voilà, vous avez un cancer, il est à tel stade, on peut faire tel traitement, et si vous nous aidez, vous avez des chances de vous en sortir. On considère le patient comme un être humain à qui on parle, avec qui on collabore, et cette collaboration a une valeur extrêmement positive. Dire à quelqu'un, vous êtes délirant, vous êtes schizophrène, même vous êtes maniaque, c'est quelque chose qui le sort durablement ou pour longtemps ou pour peu de temps du lot des êtres humains à qui on peut se fier. Alors dire ça à la famille, c'est assez terrible. Dire ça à la famille, ça veut dire vous croyez avoir un fils ou une fille, et bien c'est un malade mental, et ce que dit ce malade, vous ne devez pas y attacher l'importance, vous ne devez pas le croire. Alors, c'est donc pas facile. Et souvent, nous sommes pris dans d'assez grandes difficultés pour que la mise en place d'un dispositif de soins n'accélère pas un phénomène de rejet qui risque de traumatiser tout le monde, l'environnement d'abord et le sujet lui-même, et qui risque d'aggraver considérablement la situation. Je dois vous dire qu'il y a des cas où la folie est tout à fait évidente, et à ce moment-là, le diagnostic ne fait rien. Mais vous avez parlé de schizophrénie, et là je suis très sensible à cela. Je vois souvent des adolescents qui sont indiscutablement schizophrène, mais qui tiennent assez bien le coup dans une situation assez paradoxale. La famille se demande s'il s'agit d'une marginalisation simple ou de quelque chose de beaucoup plus important, et manifestement, père et mère vivent dans une certaine angoisse, à certains moments pensent que l'enfant est schizophrène, à d'autres moments ont des possibilités d'échange qui leur fait de dire le contraire, et les possibilités d'aggravation ou d'amélioration sont en partie déterminées par la façon dont l'entourage rejette ou au contraire essaye de comprendre et essaye d'accueillir. Alors c'est là où la psychanalyse, pour revenir à notre sujet, a joué un très grand rôle. Vous savez que c'est jusqu'à la psychanalyse, jusqu'à Jung, d'ailleurs de manière précise, quand il travaillait chez Bleuler, on pensait que ce que faisait, ce que disait un schizophrène, n'avait pas d'autre sens que le sens de la désorganisation mentale. Et en découvrant que ce qui paraissait incompréhensible avait un sens, eh bien on a fait faire un pas énorme à la compréhension du psychisme humain. Ça ne veut pas dire pour autant que l'on a des moyens de guérison. Car le fait de comprendre que ceci a un sens et qu'il y a de grandes analogies entre une partie de notre fonctionnement inconscient, tel qu'il peut par exemple à certains moments se manifester dans le rêve, et des processus pathologiques comme la schizophrénie, ça ne nous permet pas pour autant d'agir d'une manière utile et positive. Ça permet quand même de poser d'une manière tout à fait différente la compréhension médicale du processus, d'abord. Ça permet aussi d'éviter, en tout cas, et c'est ce que nous essayons de faire dans les institutions psychiatriques, de prendre des mesures qui condamnent le patient à une aliénation de plus en plus grande. Car dans l'aliénation du schizophrène, la réponse de l'environnement joue un rôle tout à fait important.
Qu'est-ce qui relève de la psychiatrie et qu'est-ce qui relève de la psychanalyse? Ou bien, autrement, vous êtes psychiatre, vous êtes psychanalyste, quand est-ce que vous êtes psychiatre et quand est-ce que vous êtes psychanalyste?
C'est une question très judicieuse que vous me posez. Je vous dirais que la psychanalyse, pour moi, c'est deux choses. C'est d'abord une théorie générale de la psychopathologie. Alors je vous dirais que, de ce point de vue, je suis toujours psychanalyste. Ça ne veut pas dire qu'on doit considérer comme nul et non négligeable tout ce que les recherches biologiques contemporaines apportent à la compréhension des processus pathologiques cérébraux. Il est évident que tout ceci se passe dans le fonctionnement cérébral et qu'il est important de savoir comment il est possible, si vous voulez, que l'activité cérébrale se dérègle et à quel niveau elle se dérègle. Mais en tant que praticien, il y a des patients que je prends en psychanalyse et des patients pour lesquels il faut que j'imagine d'autres tactiques, parce que je pense que l'application de la cure analytique telle que nous avons l'habitude de la faire n'est pas possible chez ces patients et ne serait pas utile. Alors on prend d'autres mesures. La définition de la psychiatrie est difficile. Il y a beaucoup de définitions de la psychiatrie. Ça peut être simplement le représentant de l'ordre public.